Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. C'est à présent l'heure du journal en français. C'est avec Michel Desjeux. Des nouvelles réformes visant à améliorer la qualité de la formation des enseignants dans les différentes écoles normales sont envisagées au Niger. Les explications du directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire sont à suivre dans ce journal. Amélioration de la situation des enlèvements à Guidangoumji, région de Maradi, selon le préfet de cette localité. Du 27 décembre 2018 à ce jour, au total, 23 personnes ont été enlevées par des bandits armés, dont 5 toujours gardées. La baisse des débits du fleuve Niger inquiète de plus en plus les autorités des pays qu'il traverse, une situation qui serait en lien avec les effets du changement climatique, explique le directeur général de l'agence malienne du bassin du fleuve Niger. C'est le magazine du jour. Bonsoir à tous. Perspective de réforme d'amélioration dans la formation et l'encadrement des enseignants dans les différentes écoles normales du Niger. Selon le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire, Achana Hima, cette décision vise à doter les écoles nigériennes d'enseignants de qualité.
On a constaté dans la pratique, voilà ce qui est bien fait, voilà ce qui n'est pas bien fait. On partage d'accord la compréhension des instructions officielles qui sont contenues dans ces programmes-là et on essaie de voir s'il y a des endroits où il y a une incompréhension, s'il y a des choses qui dans la pratique ne peuvent pas être mises en application. C'est le moment de proposer donc des mesures alternatives pour pouvoir aller de l'avant. Il y a également les acteurs terrain qui sont au niveau direction régionale, qui sont sur le terrain et qui reçoivent ou les stagiaires ou même les futurs enseignants des écoles normales pour qu'eux-mêmes amènent leur contribution par rapport à ce qu'ils ont constaté en termes de profil, de compétences, de sortants. Parce que le noyau de la qualité, c'est là où on produit les ressources humaines pour aller enseigner. Si on ne crée pas les conditions pour former des ressources humaines, des enseignants de qualité, ce n'est pas sur le terrain qu'on peut les transformer.
Propos recueillis par Mokta Hamadou. Arissal Al-Amda, chef d'un groupement Touareg de la commune rurale d'Inates dans le département d'Ayero, a été assassiné hier nuit par des hommes armés non identifiés. Une information confirmée par le vice-maire d'Inates, joint au téléphone par Studio Kalangu. Une autre source indique que le chef a été tué avec son cousin. 23 personnes enlevées entre décembre 2018 et avril 2019 par des bandits armés à Guidangoumji, région de Maradi. Selon le préfet de cette localité, Saleh Jigo, seules 5 personnes sont encore otages, les autres ayant été libérées après paiement de rançon. Des interpellations sont en cours, a confié le préfet de Guidangoumji, interrogé au téléphone par Mohamed Maman.
La situation, je peux dire, elle s'est améliorée depuis un certain temps. La plupart de nos frères qui étaient détenus par les bandits armés ont pu recouvrer leur liberté. Du 27 décembre 2018, à cette date, ces bandits-là avaient pris en otage jusqu'à 23 personnes dans notre département. Donc la première personne, c'était la petite fille de Garil Labou, qui était prise en otage, qui est gardée pendant 27 jours. Mais après que son père ait payé une rançon d'un million de naira. Après cette fille, donc, il y a 17 personnes qu'ils ont prises en otage qui revenaient du marché de Chinkati. Après, ils ont pris deux enfants chez Hart de Sabou. Ils ont pris la Wali de Ido Gassou. Ils ont pris tout récemment une jeune fille. Pour ceux qui ne sont pas rentrés actuellement, il y a les trois du grand groupe là, plus les deux vieux là. Ça fait 5 personnes qui ne sont pas rentrées. On avait compris qu'ils agissaient avec la complicité de nos frères locaux. Donc, depuis un certain temps, on a procédé à des interpellations.
216 victimes de trafic d'êtres humains, dont 157 mineurs, ont été secourues début avril lors d'une opération menée au Bénin et au Nigeria, a annoncé Interpol mercredi. Des mineurs âgés de 11 à 16 ans étaient forcés à travailler dans les marchés des jours entiers, portant de lourdes charges ou faisant la cuisine, a fait savoir Interpol, ajoutant qu'un certain nombre avaient été exploités sexuellement. Selon l'AFP, qui a exploité ce communiqué, les victimes sont originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria et du Togo, dont certains mineurs ont pu être ramenés à leurs parents. Des présumés djihadistes ont quitté l'est du Burkina Faso ces derniers jours pour se réfugier au Bénin, au Togo et au Ghana, selon le site d'information de Jeune Afrique. Ce sont les services de renseignement burkinabés se basant sur des écoutes téléphoniques qui auraient alerté leurs voisins. Pour l'analyste Dr. Diko Abdourahmane, enseignant à l'Université de Zander, joint au téléphone par Studio Kalangou, la combinaison des efforts en matière de renseignement est un moyen efficace dans la lutte contre le terrorisme.
Il est évident que le Bénin, le Togo et le Ghana ne constituent pas véritablement des pays qui sont menacés véritablement. Donc ce sont des terres de repli où le noyau d'abord se construit et se développe. Donc il est urgent pour la communauté, sinon pas les pays touchés directement, même les pays qui abritent ces terroristes, de se concerter et de créer une sorte de moyen plus ou moins rigide qui fera en sorte que l'information soit véritablement partagée et que les prospectives soient établies de manière consensuelle. C'est-à-dire ce qu'on entend prospective, c'est toutes les formes d'intervention et les formes aussi de mobilisation de l'information. Je l'ai dit et je le maintiens toujours, que l'arme la plus importante dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est justement l'intelligence. Ce qu'on entend par intelligence, c'est la transformation de l'information en intelligence. C'est-à-dire qu'il faut que l'information soit véritablement traitée, bien cadrée et diffusée dans ces pays-là où les services de sécurité et de défense évoluent. Donc c'est une sorte de coopération plus ou moins stratégique qu'il faut installer pour lutter contre le développement du terrorisme dans ces pays.
Propos recueillis par Mokhtar Hamoudou. L'insécurité persistante au niveau des frontières nigéro-burkinabé et nigéro-maliennes limite les voyages sur certains axes routiers, souligne le directeur commercial d'un transport nigérien basé à Bamako au Mali. C'est pourquoi d'autres transporteurs font des détours pour arriver à destination sain et sauf, précise Diakité Mohamed au micro de notre envoyé spécial Rayla Toussoumana.
L'insécurité existe, mais avec tout ça, on force à faire le travail. Mais l'essentiel, on n'a pas de problème vers le transport quand même, tout va bien. La compagnie n'a pas de disposition sécuritaire, on se méfie de la route, on suit les instructions des autorités. Ils font les escortes dans quelques escales, par exemple l'axe de Gao, il y a l'escorte militaire. Les autres axes quand même, la voie est libre, donc on n'a pas eu de problème vers le Burkina, le Sénégal, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Le grand problème même, c'est l'axe de Gao. On a des jours de départ. Arrivé à destination, tu vas trouver que l'escorte n'a même pas quitté Gao. Donc ça peut prendre 1 à 2 jours de retard, de tracasserie avec les passagers. Vraiment, on est trop fatigué par rapport à ça. C'est l'autorité, on les suit. Souvent, nous, on préfère même aller sans escorte parce qu'ils prennent trop de temps. À 200 km, on peut faire 48 heures ou 24 heures, alors que le bus fait 1200 km en 24 heures. On ne fait que soulager les passagers, les faire convaincre que c'est dans le domaine de l'insécurité. Donc, ils sont obligés de patienter et c'est comme ça.
Le sultan de l'Aïr a réuni la semaine dernière à Agadez tous les chefs des quartiers pour rappeler le devoir de tout citoyen à payer la taxe de voirie, une initiative qui permettra d'engranger des ressources utiles au développement de la commune. Son Altesse est l'ajout Mogou Ibrahim Oumogou au micro de Mousse Maman.
Et nous l'avons fait suite à une remarque de notre commune sur le non-paiement de la taxe de voirie. Donc malgré les efforts que nous faisons pour faire appel aux chefs de quartier, mais on a rigé les appeler aujourd'hui pour essayer de les mobiliser, pour essayer de faire un appel aux citoyens de la ville d'Agadez pour nous acquitter de cette taxe-là de voirie qui permettra à notre commune de faire des investissements dans le cadre de l'assainissement et dans plusieurs domaines, l'éducation et la santé. Donc il faut cette taxe pour que la commune puisse travailler. Inch'Allah, on va mener des journées citoyennes et demander à la mairie de nous donner certains agents pour aider les chefs de quartier à aller devant la population pour prendre la taxe de voirie à près d'eux. Donc on lance un appel à tout un chacun pour payer la taxe qu'il doit à la commune.
L'ambassade de France au Niger compte financer le projet Olympiade de la jeunesse au Niger pour 400 000 euros entre 2019 et 2020. Une œuvre pour contribuer à l'épanouissement de la jeunesse par un accent mis sur l'émancipation liée à la pratique sportive en milieu scolaire avec le respect d'une pleine mixité à travers l'organisation des compétitions inter-établissements tout au long de l'année. Début ce matin au Niger des épreuves physiques et sportives de la session 2019 du brevet d'études professionnelles BEP et du certificat d'aptitude professionnelle CAP. C'est le ministre des Enseignements professionnels et techniques Tidiane Abdoulkadri qui a donné le coup d'envoi au centre technique Kalmaharo de Niamey. Cette année, ces examens enregistrent au total 4470 candidats pour le BEP et 2998 pour le CAP. Les épreuves physiques du brevet d'études du premier cycle BEPC ou brevet sportif de la session 2019 débuteront, elles, demain dimanche 29 avril sur l'ensemble du pays. La commune urbaine d'Arlit organise ce week-end un tournoi de pétanque qui regroupe toutes les régions du Niger à la cité minière. C'est avec l'accompagnement de la Fédération nigérienne de pétanque à l'occasion de la fête de la Concorde. Des précisions avec El Hadji Maouli Abdourahmane, maire de la commune urbaine d'Arlit, joint au téléphone par Gunguma Mandantani.
Chaque année, à l'occasion de la fête de la Concorde, la Ligue régionale d'Agadez de pétanque organise un tournoi interligue, un championnat national. C'est la 7e édition. Toutes les ligues, à l'exception du FA et de la Berry, sont déjà sur place. Donc ça va prendre 2 jours, samedi, dimanche, toutes les ligues vont s'affronter pour déterminer le gagnant. Une coupe qu'on appelle la Coupe Concorde, une coupe plus 1 million. Le contexte justifie cette coupe, c'est vraiment le cadre de la cohésion sociale et la fête qui commémore le 24 avril comme a été institué par notre pays comme une journée de la fête. Nous avons juste décalé pour permettre aux gens d'être à la fête nationale et maintenant d'aller venir à la fête ici à Arlit.
La baisse du niveau des eaux du fleuve Niger serait un des effets visibles du changement climatique, a déclaré le directeur général de l'Agence malienne du bassin du fleuve Niger. Ceci impacterait négativement les activités au niveau des rives, remarque Abdourahmane Oumarou Touré. Toutefois, ajoute-t-il, des dispositions peuvent être prises pour lutter contre cette baisse du niveau de l'eau. Suivant son entretien avec notre envoyé spécial à Bamako, Rayla Toussoumana, c'est la partie magazine.
La baisse du niveau sur le fleuve Niger est flagrante. L'année dernière, par exemple, nous, à notre niveau, on a sonné l'alerte parce qu'au rythme où la décrue se prononce, il est fort possible qu'on puisse traverser le fleuve à pied à Bamako. Mais nous avons une chance au Mali. Le barrage de Sélengué est un soutien fort pour les étiages au Mali, ce qui permet quand même d'éviter que le fleuve soit coupé par endroits.
Quel est l'impact de ce retrait des eaux sur les cultures qui se font, sur les berges?
Quand nous constatons que les débits sont faibles, on demande aux usagers de revoir leurs ambitions pour que leurs besoins puissent être satisfaits. Il arrive très souvent qu'on alerte l'Office du Niger par rapport à la mise en place de certaines cultures de contre-saison. Donc on revoit la baisse et les superficies cultivées pendant la période de décrue. Donc en fonction de la disponibilité, les gens mettent les cultures en place. Il en est de même pour les zones de pêche et aussi les zones d'élevage.
Aussi pour ces cultures-là, en saison de pluie, vu l'envasement, l'ensablement, il y a des cultures qui sont inondées.
Vous savez, l'hydrologie, c'est un domaine extrêmement complexe. Il est impératif que certains dispositifs soient mis en place. L'inondation des cultures, on le sent surtout dans les zones non aménagées. Il va de soi que les digues traditionnelles rompent, mais là où les digues ont été calées à des cotes requises par rapport aux crues exceptionnelles, là, il n'y a pas d'inondation.
Ceux qui exploitent ces endroits-là, est-ce qu'ils sont informés à chaque fois que ces situations-là se présentent?
Le cas des zones non aménagées, il y a ce qu'on appelle l'irrigation d'appoint. C'est-à-dire, il faut anticiper sur les pluies parce que difficilement la conjonction pluviométrique crue se fait à la faveur des cultivateurs. Donc, il faut mettre un dispositif d'anticipation pour arroser les semis avant la crue. Ainsi, quand la crue s'annonce avec les digues traditionnelles, ils inondent petit à petit et la parcelle. Quand, avant que la crue n'atteigne un niveau de menace, le riz aussi aura atteint un bon niveau végétatif, lui permettant de résister par lui-même à l'inondation.
Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir.